Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
L'Anthropode quoi ?
L'Anthropodcast.
Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Quelques petites remarques avant de lancer l'interview. Déjà, il s'agit de la partie 2 et je pense que la partie 1 est plutôt indispensable à la compréhension de la partie 2. Il s'agit de l'interview de Daniel Terrol qui répond, ou tente en tout cas de répondre à cette question. Que deviennent les SDF ? Et effectivement, si vous n'avez pas écouté la première partie, vous allez peut-être vous demander un petit peu pourquoi cette question a été posée. Pour ceux qui ont écouté la première partie, on s'était arrêté à la fin, et c'est là que l'interview va continuer, puisqu'elle a été coupée un petit peu sauvagement. Le dernier point était celui des statistiques, à savoir... Comment est-ce qu'on sait que la réinsertion fonctionne ou ne fonctionne pas, la réinsertion des SDF donc dans la vie normale entre très grosses guillemets. Et puis Daniel Terrol était très étonné de ne pas avoir de chiffres et on continue à en parler. On rappelait juste qu'au niveau scientifique effectivement pour savoir si la réinsertion fonctionne ou non, il faudrait avoir au minimum un nombre de SDF de base qu'on a aidé. Et voir combien de ceux qu'on a aidés sont revenus, encore une fois, dans la vie normale, entre très grosses guillemets, pour savoir si ça fonctionne ou non, et éventuellement pouvoir tester différentes techniques de réinsertion pour savoir laquelle fonctionne le mieux. C'est effectivement très scientifique, très mathématique, ça fonctionne pas vraiment comme ça en réalité, mais c'est quand même comme ça que ça devrait fonctionner. On continue donc avec des sujets plutôt complexes et émotionnellement pas très sympathiques, hein, puisqu'on va parler de la réinsertion, encore une fois, un tout petit peu, de la mort des SDF, de la presse. Alors là, c'est pas vraiment si triste que ça, la presse, mais c'est intéressant de savoir comment la presse peut agir sur un reportage ethnographique. Et on finira sur l'éthique. Ça continue donc toujours dans des sujets qui sont pas spécialement joyeux. Si c'est lundi, s'il pleut et si vous vous demandez s'il faut écouter ce podcast ou non, je vous réponds tout de suite, non, il ne faut pas l'écouter. Disons que si l'humour noir vous choque de façon à ne plus dormir de la nuit, il faut peut-être... Évitez d'écouter cet épisode aussi si vous êtes très sensible sur ce côté-là. Bref, un épisode à ne pas mettre forcément entre toutes les oreilles et pourtant je suis persuadé que tout le monde devrait l'écouter. Dernière petite chose, il y a des blancs dans cet épisode, ils sont absolument nécessaires. C'est les moments où Daniel Terrol a cité des noms et où il a parlé en bien ou en moins bien de ces personnes-là. Daniel nous a demandé après l'interview s'il n'y avait pas moyen d'enlever ces noms-là afin qu'il n'ait aucun problème suite à la publication sur YouTube, sur les médias sociaux, etc. Et bien entendu, on a respecté sa volonté et cela ne change bien entendu absolument rien au sens de ce qu'il nous explique et c'est bien le principal. Encore une fois, je ne sais pas si je peux dire bonne interview sur un sujet aussi complexe et dur, mais bonne chance et encore une fois, bienvenue en enfer.
On vit dans un monde de fous, petit papa Noël, quand tu descendras.
Alors il y a là un collègue qui a cherché à le faire, qui est un prof qui avait fait sa thèse sur Emmaüs, donc il connaissait quand même bien la structure, et qui il est prof à l'Université de Montréal actuellement, et il publie un bouquin qui s'appelle Les Affranchis, bon le titre n'est pas très bien choisi, drogués, SDF, ils s'en sont sortis, avec un titre comme ça vous attirez les foules.
Ça me fait penser à un titre de film ça, il y a un titre de film qui s'appelle Les Affranchis avec...
Oui, Scorsese.
Oui, voilà, exactement.
Non, mais c'est pas le même truc. Hein. Il est terrible, ce film, d'ailleurs. Le film de Scorsese,
Ah oui, bref, très bon. Hein.
Il se flingue les uns après les autres, les potes qui s'aimaient, etc. Hein, bonjour. Non, donc ce film, ce bouquin passe inaperçu. D'abord, je pense qu'il a été refusé par les grandes maisons d'édition. Donc, il est chez Harmattan. Il est discrétionnaire. Je tombe dessus, je le lis. Excellente démarche sociologique, le gars dit, on va vérifier l'efficacité des politiques sociales et si les gens s'en sortent. Il met tous ses réseaux aux aguets, il contacte tous les CCAS de France, il contacte les organismes caritatifs, il fait des appels dans les journaux régionaux, si vous avez été SDF, que vous êtes réinséré, on recueille votre témoignage, merci de faire ci, etc. Et il en trouve très très peu. Bon, il tombe sur une vingtaine de personnes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait que 20. Et il conclut que, bon, ça ne fonctionne pas. Mais ça, il ne faut pas le dire. Alors moi, je vais à la Fédération Nationale, la FNARS, de je sais pas, 885 associations qui œuvrent pour aider les SDF, les plus démunis, tout ça. Je me fais recevoir par le spécialiste de manière très très agressive, défensive, en disant, mais attendez, qu'est-ce que vous posez comme question? La question que je pose, c'est est-ce qu'on a une évaluation de la réinsertion? Mais pourquoi vous voulez le savoir? Ben, j'ai dit, d'abord, passer des crédits d'État qui sont donnés aux associations pour la réinsertion. Donc, je pense que l'État ne doit quand même pas vous filer du fric sans avoir de résultats. Et là, j'ai vu que ça tournait vinaigre. Et oui, parce que l'État leur file du fric sans obligation de résultats. Et que la réinsertion ne marche pas. Mais ça, il ne faut pas le dire. Tout le monde le sait dans le milieu, mais il ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on touche le fric, déjà. Bien. Donc, je me rends compte du côté de la réinsertion, j'irai pas loin. Du côté de la mortalité, alors là, je prends les statistiques, je vais voir les statisticiens des Tours Gamins, là, à côté de la gare de Lyon. C'est un poème. Le gars qui me reçoit me dit, écoutez, monsieur, je ne peux... Comme il n'y a pas d'item SDF, les SDF, c'est-à-dire l'item SDF en sociaux, c'est la plus petite définition sociale, statistique, possible. Ils ne sont pas définis. Donc, ils sont versés dans la mortalité, ils sont noyés, si je puis dire, dans l'ensemble des inactifs. Donc, pas de statistiques de mortalité. Et puis, il me dit, mais bon, il y a peut-être des soucis aussi sur l'établissement de ces statistiques. Vous savez que les statistiques du suicide ne sont pas exactes. J'ai dit, comment ça, les statistiques ne sont pas exactes? Eh bien oui, il y a un delta d'erreur de 20%. J'ai dit, quoi? Un cinquième d'erreur? Et j'y s'empêche pas les collègues statisticiens de tirer des conclusions définitives. Un cinquième d'erreur, mais c'est énorme. C'est-à-dire, statistiquement, bon, 2-3% c'est admissible, mais un cinquième. Alors pour quelle raison? D'abord parce que le suicide souvent n'est pas déclaré comme tel. Pour quelle raison? Bah, d'abord la honte familiale. Bon, c'est qu'une famille ne va pas très bien quand il y a un de ses membres qui se suicide. Deuxièmement, l'assurance vie, surtout. Parce qu'en cas de suicide, on ne la touche pas.
Il n'y a rien.
Ça ne marche pas. Donc la veuve ne va pas inciter à déclarer un suicide s'il y a 200 000 euros en assurance vie qui vont lui passer sous le nez. Hein, on est bien d'accord. Troisièmement, la religion. Aucune religion n'accepte les suicidés. C'est mal barré. Quoique l'Église catholique a mis plutôt de l'eau dans son vin, si je puis dire.
Dans son comparé à avant, oui.
Oui, il n'y a plus personne dans les églises. Il faut bien essayer quand même de les faire venir. Donc, mais sur les suicides, ils ne transigent pas quand même. Bon, ils font peut-être des offices qui ne sont peut-être pas franchement religieux, mais bon, c'est un problème. Donc vous voyez, il y a des tas de raisons qui font que le suicide n'est pas déclaré. Il y a pression qui est faite sur le médecin de famille pour qu'il déclare mort naturelle, on en reste là, ce serait bien. 20%. Là, il m'ouvre des horizons. Et je me dis, oulala, mais comment on déclare la mort des SDF? Bon, c'est bien bon qu'ils soient noyés avec les inactifs, mais... et là, bon, donc du coup, je me mets à enquêter sur la mort des SDF à Paris. Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, d'abord, parce que je me rends compte, statistiquement, je n'aurai pas de réponse. Bon, c'est clair, je n'en aurai pas, il n'y a pas de statistiques. Pourquoi? Parce que l'INSEE n'arrive pas à définir, n'arrivait pas en 1995, quand j'ai commencé l'enquête, il n'y arrive toujours pas tout de suite. C'est vous dire, hâte-toi lentement, très lentement. C'est sur recommandation, bien évidemment. Bon, on a des statistiques sur tout, des items sur tout. On est capable de vous dire combien vous consommez de préservatifs, combien vous consommez de vitamines, le nombre d'accidents de la route, et tout.
Et même des trucs sur l'alcool, les drogues, bon, enfin les trucs un peu...
On a un système statistique qui est très très fouillé. Et là, assez curieusement, sur les SDF, eh ben, ils n'arrivent pas à définir un item SDF. Si cet item était défini, j'ai poussé l'enquête à l'INSERM qui gère les décès, hein, la cause de mortalité, donc il fait les statistiques de mortalité, je suis allé à l'INSERM. Alors là, je n'utilise pas de magnétophone, parce qu'il y a des gens que ils font de l'autocensure, donc pas caché. Hein, je veux dire, moi je demande si je peux prendre des notes, bon ça ne dérange pas, on discute comme ça. Et un des spécialistes de mortalité en France finit par m'avouer, me dire écoutez, on a de gros problèmes pour essayer d'avoir la mortalité réelle des SDF. Pourquoi? Parce que les bulletins de décès qui normalement nous sont renvoyés, qui servent de base aux statistiques de mortalité de l'ensemble des Français, ne nous sont pas systématiquement renvoyés. Ah, j'ai dit, ah bon, pourquoi? Ben oui, l'Institut médico-légal ne les renvoie pas. Or, j'ai appris lors de mon enquête que, parce que je fais une enquête, je prends le mort à la rue et je vais jusqu'au bout. Alors je me suis dit, comme j'avais vu Soylent Green, Soleil Vert, un film où, si vous connaissez l'argument, je me dis, on va retrouver les SDF transformés en biscuits pour chiens. Mais c'était là aussi un concern de ma part. Pourquoi ? Parce que les Français aiment tellement leurs animaux qu'ils n'oseraient même pas leur donner du SDF à manger, vu leur état. Et oui, mais oui, mais oui, dans mon petit bled, là, une femme devant moi, deux côtelettes chez le boucher, et bien épaisses, hein, et tendres. Hein. Et pourquoi les dernières n'étaient pas tendres, et le boucher ? C'est votre chien qui vous l'a dit ? Pour son chien. Je ne vous dis pas l'ambiance, hein, d'ailleurs. Alors moi, j'ai pété un câble. J'ai dit, écoutez, si vous avez des commandes comme ça, écrivez-les quand même. Hein? Il y a des gens ici, ils ne peuvent pas s'acheter des côtelettes de bœuf comme ça. Alors, que ce soit pour votre chien, c'est votre problème, mais franchement, bien, c'est ouf-tu, mais t'as pas ouf-tu. Le boucher était emmerdé, il m'a dit, vous allez me faire perdre une bonne cliente. Mais vous avez raison de le dire, parce que quand elle m'a dit quand même, quand je vois qu'elle achète des côtelettes comme ça de bœuf pour son chien, et qu'elle me dit, il ne les a pas trouvées tendres, non mais franchement, elle coupe pied au cul, oui. Mais j'ai dit, votre cliente, il faut la garder. Bien, donc, parallèlement, je fais cette enquête de terrain, je pars du cadavre. On trouve un cadavre dans l'espace public, dans le métro, dans un parc et jardin, dans un recoin d'HLM, de cours, etc. Qu'est-ce qui devient ? Comment ça se passe ? Alors, les flics sont appelés, ou les pompiers. Pompiers de Paris, c'est pas la peine d'enquêter, c'est un ordre militaire, ils communiquent pas. Pompiers de Paris, vous n'aurez aucun renseignement. Ça, je l'ai appris très vite. Parce qu'au début, j'étais naïf, j'ai dit, je vais communiquer avec les pompiers. Donc, je fais une demande auprès des pompiers, on me répond, il faut faire une demande par écrit auprès du chargé de communication, qui va envoyer la demande au commandant ou au général de brigade, qui va donner son accord ou pas. Dans 6 mois, vous aurez peut-être une réponse qui sera négative, naturellement. Donc, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Bon, c'est un ordre militaire. De façon, sur ordre, la canicule de 2003, ils n'ont pas communiqué. Et bon, ils sont passés, les responsables sont passés devant une commission d'enquête après la canicule, 15 000 morts quand même, hein, avec des hangars frigorifiques à Rungis, alimentaires, qui ont été virés des aliments pour y foutre les cadavres, avec des frigos, des camions frigorifiques, qui faisaient quand même 40 sur Paris, on découvrait des corps après 3-4 jours, vous imaginez dans quel état, la putréfaction elle est toute blinde, et des camions frigorifiques alimentaires qui ont servi à trimballer ces cadavres, et des caveaux à décomposition rapide à Thiers qui fonctionnaient à plein turbin. Pourquoi ? Parce que les familles étaient parties en vacances, en laissant Pépé ou Mémé toutes seules dans leur petite pièce, que Pépé, Mémé claque, et que les enfants étaient injoignables. Alors, ça a été bien, ces caveaux, parce qu'au retour des enfants, ils sont allés récupérer le corps de Pépé ou de Mémé, et ils l'ont remis dans leur caveau, eux. Mais bon, sur le coup, là, il y avait une urgence démentielle. Donc, tous les cadavres trouvés dans l'espace public ou privé à Paris, dont la mort peut paraître suspecte, passent par l'Institut médico-légal, l'IML, quai de la Râpée. C'est le nœud de compréhension de la chose. Donc, les flics sont alertés, ou les pompiers, ou un médecin de l'Institut médico-légal. Le constat de la situation du corps est fait, il y a un procès verbal. Le corps est emmené à l'Institut médico-légal. Là, on l'observe un peu plus, mais on ne fait pas d'autopsie. Sauf si, après cette deuxième observation, suite à la première, on s'aperçoit qu'il y a des symptômes très curieux de la mort, et là, l'institut médico-légal saisit le parquet qui demande une autopsie. L'autopsie établit soit des causes normales de mortalité, sans agression, meurtre ou quoi que ce soit, soit des causes anormales, auquel cas il y a une enquête de police, et après c'est comme un crime, etc. Bien. Bon, donc je mène mon enquête et j'arrive à l'Institut médico-légal. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes, parce qu'on en apprend tous les jours. Donc l'Institut médico-légal, qui est de la Râpée, c'est pas très attirant comme bâtiment, il pourrait faire plus joyeux. Mais on est déjà dans l'ambiance, donc je pousse une première porte, et puis il y a une grande salle avec deux grandes portes. Donc je rentre dans la grande salle, j'entends des pépiers derrière. En fait, il y avait trois secrétaires d'accueil là qui étaient là, et puis bon, comme il n'y avait pas de clients, les clients en fait étaient en dessous dans les... dans les refroidisseurs. Comme il n'y avait pas de clients au moment où je suis arrivé, elle papotait, quoi. Bah, c'est normal, c'est fait, on peut passer la journée dans un endroit pareil, sans rien se dire. Elles alimenteraient les...
c'est déjà pas joyeux comme
ça. Bah oui, bah oui. Je pousse la porte qui couine horriblement, et là, les perruches s'arrêtent. Un silence.
De mort.
Un vivant est entré dans le bureau.
Et en face de moi, trois bonnes femmes, chacune à son poste, avec un visage de circonstance. Bon, alors qu'avant, elle plaisantait, je sentais qu'elle riait, bon, tant mieux. Et là, donc, je franchis le pas, comme ça, c'est long, cette salle. Bon. Arrivé à 5-6 mètres, je ne sais pas vers laquelle aller, Amstramgram, Big Epic, on va la jouer comme ça, mais je n'ai pas eu à la jouer. Monsieur, vous venez pour un proche? Alors, c'est là, j'aurais dû dire oui, mais comme une andouille, là, je ne sais pas trop mentir. J'ai dit, non, je mène une enquête, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le mot qu'il ne fallait pas. Elles auraient eu des grilles étanches, elles les auraient baissées tout de suite. Nous ne répondrons aucune question, nous ne sommes pas habilités. Mais j'ai dit, alors, à qui je peux m'adresser? À madame, chef, médecin, en chef médico-légal, demander un rendez-vous. Bien. Donc, je demande le téléphone. Ben, j'ai dit, je peux. Et puis, je lui téléphone. Bon, je m'en vais, je remercie ces dames. Ce fut bref, mais intense, mais bon, on n'est pas fait plus. Je téléphone, qui finit par me prendre, et je lui explique ma démarche. Je dis, voilà, je travaille sur un bord des SDF, et donc, comme l'institut médico-légal, vous le savez, est nodal pour tous les cadavres trouvés à la rue, qui passent par chez vous, je voudrais bien collaborer avec une équipe médicale sur cette question, mais moi d'un point de vue anthropologique. Et là, elle me dit, je ne comprends pas l'objet de cette recherche. Ben, je reprends, parce que j'ai encore naïf, je reprends, je lui explique. Alors elle coupe très vite, elle me dit, écoutez, envoyez-moi un rapport, vos propositions par écrit, tout ça. Je fais un truc en béton, en tête CNRS, caché, machin, plus CNRS que ça, c'est pas possible. Une dizaine de pages. Une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent, je ne réponds pas, je la rappelle. Elle me dit, j'ai lu votre travail, je ne comprends toujours pas votre projet. Quand un Mac plus 10 vous dit qu'il ne comprend pas votre projet, c'est à vous de comprendre qu'il ne veut pas le comprendre. Bien. Donc, je lui dis, bah, écoutez, c'est dommage parce qu'une collaboration peut être intéressante. Mais elle me dit, je ne vois pas pourquoi. Nous, on travaille sur les pathologies. Je sais bien que vous travaillez sur les pathologies, mais moi, je travaille sur les items sociaux, la dimension sociale. Bon, donc, et là, elle me sort que de toute façon, elle n'arrive pas. Les cadavres qui passent devant elle ne sont pas différenciables. Alors là, bon, j'ai quand même trouvé qu'elle se foutait un peu de ma gueule. J'ai dit, écoutez, quand même, vous ne pouvez pas me faire croire qu'il n'y a pas de différence entre le cadavre d'un SDF qui a 10 ans de rue et qui arrive chez vous et celui d'un touriste belge. Tout juste, elle ne m'a pas dit pourquoi belge. Bon, j'ai compris que c'était verrouillé. Bon, je me renseigne par ailleurs, verrouillé. De toute façon, pour la rencontrer, il faut demander une autorisation à la préfecture de police de Paris. Et là, je découvre que l'Institut médico-légal de Paris dépend de la préfecture de police, donc du ministère de l'Intérieur. Et là, politiquement, ça a du sens. Pourquoi? Parce que les grandes manifs d'Algériens, dont on n'a jamais su s'il y avait eu 250, 300 morts sous les ordres de Papon, grand serviteur de l'État, qui a dit aux flics, carte blanche, je vous couvre, et qui sont foutus à mitrailler, matraquer, balancer les gars par-dessus les ponts de la Seine et tout ça. Ça s'explique. La Borde, l'Institut médico-légal de Paris, on paye notre part. L'absence de morts étudiants pendant 1968, pareil. J'avais un copain, médecin, qui travaillait là-bas, qui m'a dit on a retrouvé des cadavres auprès comme des autostoppeurs auprès d'accidentés de la route qui avaient été tués au volant, et puis le type qu'ils avaient pris en stop à côté, pareil. Les cadavres officiels, qui auraient pu servir de martyrs, je dirais, dans des affrontements quand même très très violents qui ont eu lieu, Gay-Lussac, etc. Il n'y a pas d'étudiants sur mort. Aucun.
Ah, c'est vrai que maîtriser le nombre de morts, c'est pratique.
Oui, oui. Oui,
c'est un peu machiavélique quand même. Hein, mais c'est pratique.
Mais ça paraît logique au niveau politique.
Donc, je me dis, bon, là, ce qui est nodal, je ne peux pas y arriver. Donc, je ne peux pas me transformer en cadavre pour faire de l'observation participante. Ce serait un peu difficile. Je peux essayer de rentrer.
Ça fait qu'une fois, disons.
Oui. J'aurais pu rentrer comme laborantin ou un truc comme ça, essayer. Mais bon, je vous préférais poursuivre la piste. Et donc, je me bosse à la sortie. Et à la sortie, vous avez une grande porte et une petite porte. Et je vois arriver devant la petite porte une camionnette banalisée, avec des mecs banalisés, je veux dire son costume, son insigne, sans quoi que ce soit, qui charge 8 cercueils. Ben, c'est la capacité maximum de la. Bien. Parallèlement, mon enquête me mène au département des cimetières de la ville parisienne, c'est parc et jardin et cimetière, c'est le même truc. Et là, je rencontre un ingénieur habillé. Un costume avec un bleu lavande, une cravate et une chemise en camailleux avec sa couleur, pas une pète de noir, hein. Bon, mais c'est le spécialiste technique des caveaux, des morts, de l'incinération et de tout. Bien, qui me reçoit là-dessus. et qui finit par me dire que donc, sous Tibérie, la mairie de Paris a acheté un certain nombre de, une centaine de, enfin je sais plus combien, j'ai les chiffres dans les articles, je m'en souviens plus exactement, 400 mettons, caveaux et décompositions rapides, qui sont situés au cimetière parisien de Thiers et qui sont là pour accueillir, ben, en cas de gros arrivages de morts par épidémie, par accident, un Boeing qui s'écrase, ou les SDF, ou les démunis, voilà. Bon. Et alors moi, en écoutant ce mec-là, alors d'abord il me la joue, comment je pourrais dire, il me la joue compassionnel, il me dit par respect pour ces personnes, nous avons mis fin aux fosses communes. Alors moi, dans ma tête, il continue à me jouer du violon, tu vas me faire marrer. Et puis très vite, j'arrive à le faire glisser sur les aspects techniques. Alors comme c'est un technicien, naturellement, là, sur le plan linguistique, ça change complètement. On n'est plus dans le truc policé, le truc, le faux semblant. On parle technique, recyclage, coût, etc. Alors je dis, ils ont droit à un logement gratuit pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les restes sont relevés et envoyés au crématorium du Père Lachaise, où ils sont incinérés, les cendres distribuées. Jeté dans ce qu'on appelle le jardin du souvenir. Là, je me retiens de pouffer de rire parce que j'imagine que c'est plutôt le jardin de l'oubli, quoi. C'est pas le jardin du souvenir, parce qu'il me gonfle avec ça. Bref, ça coûte tant le caveau, etc. C'est un effort magnifique de la mairie de Paris. J'ai très bien. La société qui a fait ça, c'est Ogival. Très bien, je note Ogival, parfait, je vous remercie. Bon, et donc après, je file à Thiers. Et à Thiers, je retrouve ma camionnette. Un lundi matin. Alors Thiers, c'est le plus grand cimetière parisien, 155 hectares, un truc énorme. C'est beau, c'est tranquille, les voisins sont pas bruyants, c'est... J'adore les cimetières. C'est vrai pour se promener, les chats aussi, les oiseaux, ça, c'est beau, c'est beau. Et je finis par trouver les deux divisions, qui sont des caveaux. Alors, c'est des caveaux, ce sont des caveaux sur lesquels, quand je mène l'enquête, il n'y a aucune inscription. Il y a juste un numéro qui correspond à un enregistrement, à ce qu'on appelle la conservation, ne riez pas, mais ça s'appelle la conservation. Dans un cimetière où tout pourrit, les corps pourrissent, l'administration qui s'occupe de la gestion des morts s'appelle la conservation. Et je trouve ça délicieux, quoi. Bon, bref. Bah oui, je veux dire, il y a des mots comme ça, et écoutez, il y a des choses qui me font rire. Alors, bon, ça
on se demande surtout comment ça a été trouvé en brainstorming pendant une réunion.
Non, c'est très ancien. On pourrait trouver. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Parce qu'ils conservent. Il y a eu un acharnement de la société française, les autres sociétés, je ne sais pas, mais la société française, républicaine, a gardé la trace des morts. Donc je veux dire, ça va très loin. Ça veut dire que même les tombes où ils ont les noms des morts en fonction du numéro de la tombe, je ne parle même pas des SDF, hein, les gens normaux, je veux dire, les inclus, quand ces tombes sont abandonnées, qu'il n'y a plus de descendants, qu'il faut une réduction de tombes, d'os, etc., les os qui sont réduits, hein, dans des petites caissettes, ils sont emmurés dans un mur, on remet le nom, etc., et on sait que les os de qui c'est, hein, je veux dire, la société s'acharne à savoir qui est qui là-dedans. Ah si, si. Vous allez voir, c'est intéressant pour la suite, justement. Donc, je vois, il y a deux divisions qui sont remplies de caveaux modernes avec une dalle dessus. Bon, je me suis fait expliquer le système par l'ingénieur. Il m'a dit, bon, bah, vous voyez, des caveaux, pourquoi des compositions rapides? Parce qu'il y a une circulation d'air statique à l'intérieur, enfin dynamique à l'intérieur, mais qui repose sur les oppositions de pression atmosphérique diurne et nocturne. Donc, l'air rentre, l'air sort. Il passe par des espèces de tortillons où il y a un liquide bactériologique. Il y a au cahier des charges de ces concessions un aménagement paysager beaucoup plus important, ce qui coûte cher d'ailleurs, parce qu'il faut que les arbres cyclent aussi les émanations, etc. Bien, il n'y a pas un nom, donc, j'y vais, il y a le numéro de tombe, et donc il y a une dalle. Alors, là, il y a un appareil pour lever la dalle, les types arrivent avec la camionnette anonyme, il y a 8 cercueils, pourquoi 8? Parce que la camionnette n'en accepte que 8, ils viendraient avec un 30 tonnes, ils en foutraient 60. Hein. Bon, mais bon, 60 là-bas, ça fait quand même du boulot, même si ça va vite. On lève la dalle, on descend le cercueil là-dedans, aucune cérémonie, il n'y a rien, puisqu'on ne sait pas qui c'est, à la limite, même si on sait qui c'est, personne ne se manifeste ou quoi que ce soit. On met le joint, c'est surtout ça qui leur fait prendre du temps, on remet la dalle et voilà, on enregistre à la conservation. Parfait. Et au bout de 5 ans, on soulève, on ramasse les restes, on part incinérer. Très bien. J'avais bien avancé. Seulement, il me fallait le dossier technique et c'est là où justement l'anthropologue est obligé de ruser. Parce que moi, la société Ogival, qui avait inventé ce système et qui le vendait, je me voyais mal en tant qu'entrepreneur de me dire voilà, je travaille, je fais une enquête, vous pouvez m'envoyer votre dossier technique, ça ne marche pas ça. Donc j'envoie un courrier à mon nom, mais disant que je suis un élu, que je réfléchis à la disparition des fosses communes sur ma commune d'ailleurs, et que donc j'ai entendu parler de leur dispositif. Bon, par retour du courrier, j'ai tout le dossier technique, les satisfactions des acheteurs, etc., des différentes communes qui en ont acheté, tout ça. Bon, génial. Marche bien. Marche très très bien. Bon. Bon, l'enquête pour, s'avance bien. Bon, je prends des photos, tout ça, puis j'en lis un petit article de résultats de terrain, quoi. C'est-à-dire, bon, de la mort du cadavre trouvé jusqu'à destination finale à Thiers. Et puis, il se trouve que je participe à 2-3 colloques, notamment un colloque sur Paris sur la souffrance psychique et la pauvreté, et l'exclusion, ça s'appelait comme ça, vous voyez, souffrance psychique et exclusion, auquel participe, mais dans le public, quelqu'un qui est intéressé par cette question des morts. Donc moi j'interviens sur la mort des SDF, puis je suis contacté par cette personne qui se trouve être Cécile Roca, qui est chargée de mission par le père Giros, à l'association Aux Captifs La Libération sur la question de la mortalité des SDF. Giros est mort depuis, moi je n'ai jamais rencontré Giros, mais je trouvais que là, c'était la seule association qui s'intéressait à ça, parce que Giros avait senti qu'il y avait quand même un truc qui était troublant. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'il venait, qu'il avait déjà l'intuition qu'il partait les pieds devant, surtout. Donc Cécile Roca me contacte, elle me dit, voilà, je travaille là-dessus, je dis, vous avez des statistiques, vous avez des éléments, ben non, mais il faudrait qu'on se rencontre, tout ça. Donc je la rencontre, elle me dit, vous ne voulez pas venir travailler avec nous, mais je dis, bon, c'est une association, avec des bénévoles. Je dis, moi, c'est pas pour me poser du focal, mais moi, c'est de la recherche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, on va pas parler de la même chose. Vous allez être dans le compassionnel par rapport à ces morts-là. Moi, le compassionnel, j'en ai rien à battre. Hein. Je veux dire, je suis froid, moi. À la limite, je suis scientifiquement froid. Si je m'arrête au compassionnel, j'arrête la recherche. Bon, c'est pas possible. Donc je suis au-delà du compassionnel, dans un réel. Est-ce que vous serez capable d'entendre, etc. La première réunion, c'est à grimper au rideau. Complètement. D'abord parce qu'il y a un type en face de moi, 40 ans, un des bénévoles de l'association qui dit qu'il n'a jamais eu autant de... Il n'a pas dit plaisir, ni jouissance, mais c'est presque un mot comme ça, de satisfaction, que d'accompagner un plus démuni jusqu'à la mort sous le regard du père. Alors moi je me tenais à la table, je dis qu'est-ce que je fais? Je lui fous les baffes, je me barre, qu'est-ce que je fais? C'est insupportable d'entendre ça. Cette espèce, vous savez, de cynisme catholique, accompagné sous le regard du père, bon bref. Quand il y avait Virilio, Paul Virilio, qui revenait du Brésil et qui était persuadé qu'à Paris, c'était comme au Brésil, c'est-à-dire qu'il y avait des escadrons de la mort qui allaient nettoyer les SDF ou leur faire la peau tous les soirs. Je prends Cécile à part après la réunion, j'ai dit, publiez un truc comme ça, là. Je viens de raconter Virilio, là, vous n'aurez pas l'air con, hein. Je vous le conseille, là, ça, votre pute est faite, là. Donc elle me dit, il est malade, il est fatigué. Je dis, oui, il doit être très fatigué, là, c'est le décalage horaire, c'est l'âge, je ne sais pas. Bon, il y a des trucs qui n'ont plus, quoi, c'était délirant, possible. Bien, et Cécile me dit, oui, mais je trouve que vous faites des analyses politiques. Je dis, non, je ne fais pas d'analyse politique. J'aborde la question autrement que vous, et vous verrez que par la suite, ça n'a pas loupé. 3-4 ans après, elle me dit, mais vous aviez raison. Il y a un silence sur le bord des SDF total. Bon, donc je finis mes trucs, et Cécile me dit, vous avez fait un petit texte, vous pouvez me l'envoyer? Alors je lui envoie, et là, je ne sais plus quelle est l'année, c'est 2000 je crois, ou 2002 ou 2000, sans m'en parler, leur association, parmi lesquelles il y a quelqu'un qui travaille à l'AFP ou qui a une entrée à l'AFP, bascule à un moment où il n'y a pas d'infos tonitruantes qui pourraient noyer ça, la mort des SDF, les caveaux et les compositions rapides, mon article, hop, basculé, naturellement tous les médias radinent, donc je suis obligé de remonter sur Paris. Je donne des interviews les uns après les autres en disant attention, voilà, c'est ça, mais l'important, c'est l'absence de chiffres. Insister là-dessus. C'est pas le scoop, c'est pas les caveaux et les compositions. Tu parles tous, ils ont fait des scoops là-dessus, même Marianne. Donc moi, j'étais abonné à Marianne, j'ai écrit que je voulais plus. Ça, l'Europe a fait couler, je m'en fous. Mais pour une fois que je connaissais bien une question, j'étais le seul à travailler là-dessus. C'est-à-dire la recension qu'ils ont fait avec un scoop délibéré sur les caveaux et les compositions, on ne disait rien sur l'absence de chiffres, volontaire. Bon.
Parce que je comprends. Enfin, je suis peut-être bête, mais je comprends pas tellement le problème qu'il y a. Au caveau à décomposition rapide, il est où le problème? Il est religieux?
Non, le problème, c'est que c'était révélé à ce moment-là que, que d'abord, il n'y avait plus de fosse commune, et que d'autre part, les SDF étaient traités dans des caveaux à décomposition rapide, c'est-à-dire que
qu'ils étaient traités différemment des gens qui avaient de l'argent.
Oui, ensemble, que ce soit SDF ou gens qui n'ont pas de famille, qui peuvent enterrer, qui ont fait prendre en charge les frais d'enterrement. Bon, mais peu importe.
Oui, je comprends, mais le problème des chiffres me semble quand même beaucoup plus important.
Ben oui, mais bon. Le seul qui a fait un véritable boulot, c'est un journaliste du Monde qui a repris toute mon enquête, qui a validé, parce qu'ils sont corrects, hein. Là, j'ai vu le travail. Hein. Il a repris toute mon enquête, il a validé toutes les étapes de l'enquête, et lui, c'est le seul. Bon, c'est le seul qui a fait un boulot, correct de journalisme. Bien. Donc, le problème, c'est pas tellement ça, c'est que la presse s'est intéressée à ça. Moi, j'avais pas fini complètement mon enquête. Putain, le sujet devient hyper sensible. J'avais réussi à avoir des informateurs au service funéraire de la ville de Paris. Je m'étais présenté, je suis tombé sur un vieux monsieur qui allait partir en retraite. J'ai dit, je peux pas avoir les statistiques des services funéraires, notamment les SDF, là, les démunis, tout ça. Mais si, je vous donne ça. Bon, qu'est-ce qu'il me file? Il me file les noms, les prénoms, quand ils sont connus. Moi, je m'en fous complètement. L'âge, etc. Bon, les noms et prénoms, c'est anonyme. Nous, on travaille, ça n'a rien à voir. Quand je reviens, après le ramdam, là, le buzz là, de la presse, parce que ça a commencé par les quotidiens, après ça a été les hebdos, après ça a été les radios, bon, les mensuels, donc ça a moussé. Hein. Alors la mairie de Paris, naturellement, qui était passée à gauche, aussitôt s'est lavée en blanc, première Toussaint après ce buzz-là, petit livret sur la mort des SDF, le nombre de SDF qui décèdent, je me suis marré parce qu'ils sont incapables de sortir le chiffre, personnel des statistiques, ceci, cela, comment ils sont traités, tout ça, et l'association des morts de la rue, qu'avait monté Cécile Roca, obtient, et ça je lui ai dit, vous obtiendrez des satisfactions symboliques, mais sur les chiffres, vous n'aurez rien. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont réclamé que les gens, il y ait une plaque en bois avec le nom, le prénom, etc., plutôt que ces trucs anonymes, là, ces caveaux anonymes, ils ont obtenu ça. Ils ont obtenu que la mairie de Paris met une petite gerbe, attention, elle est grande comme ça, pour la Toussaint, mais peu importe, ils sont fleuris. Et surtout, la mairie de Paris les finance, leur association, pour faire de l'accompagnement mortuaire lors de l'enterrement des SDF. Alors là, c'est autre chose dont ils se sont chargés. Ils vont enterrer, ils accompagnent, et il est prévu de la place dans la fourgonnette. Alors c'est une fourgonnette officielle. Hein. Alors entre-temps, dans mon enquête, c'est vrai qu'il y avait... Moi, j'ai travaillé sur deux choses. Il y avait l'entreprise municipale des pompes funèbres qui a muté en entreprise service funéraire de la ville de Paris, mais qui est une entreprise mixte avec des capitaux de marbrier, de choses comme ça, et un peu de la mairie. Et le personnel de l'entreprise initiale avec lequel j'avais commencé, malheureusement, et dans lequel j'avais des informateurs, a été, suivant ses choix, dispatché. On demandait aux gens, soit vous passez sur Parquet Jardin, soit vous passez sur la nouvelle entreprise. Alors, certains sont passés là, d'autres sont passés ailleurs, donc j'ai perdu des informateurs là. Que j'avais, et quand je me suis repointé donc, au service funéraire de la ville de Paris, c'est un jeune Godelureau de 25 ans qui me reçoit, Monsieur Thérol, deux minutes, il s'esquive, il remonte, il part, ça dure plus de deux minutes, il revient, il me dit, notre directeur voudrait vous recevoir. Je n'ai pas demandé en avec le directeur. Je dis, pourquoi pas, bon. Donc, il remplaçait le mec qui m'a filé les statistiques, le vieux qui était parti en retrait. Je me suis dit, là, ça allait être plus dur. Après l'article, il y a des articles parus. Et je suis reçu dans un immense bureau avec une moquette, on s'y prenait les pieds dedans, avec un type en costume Armani qui me dit, écoutez, je n'ai pas de temps à vous consacrer, mais j'y attendais, soyons clairs, c'est pas moi qui sollicite un rendez-vous. C'est-à-dire, c'est vous qui voulez me recevoir, donc c'est pas le temps de consacrer, moi je m'en vais tout de suite. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais j'ai rendez-vous avec le responsable des parcs et jardins à la mairie de Paris, pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'ai filé d'ailleurs à la mairie de Paris juste après ça. Et naturellement, je tenais à vous dire que nous serons transparents. Et moi, je lui réponds du tac au tac, en me disant ça, je sais que vous serez totalement opaque. C'est parfait. Il ne faut pas prendre des cons, quand même. Bon, quelqu'un qui vous dit « je vais être franc avec vous », c'est le moment où il vous baise dans les grandes longueurs. Bon, donc, bien. Donc, voilà, je suis allé à la mairie de Paris après, donc je suis rentré comme dans un moulin. La sécurité, c'était pas ça. Hein. Il y a deux plantons là qui avaient filtré, qui parlaient d'un côté, je me suis rentré. Après, je rencontre d'autres types mais qui pensaient que j'avais été contrôlé par les plantons. J'aurais pu avoir 40 kilos de TNT dans mon sac. Je l'ai posé sans problème. Je vois Contasso, je vois la secrétaire de Contasso, le responsable des cimetières parisiens. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez des retours sur investissement? Est-ce que vous avez un document de retour sur investissement sur les câbles et les compositions rapides? Mais à quel titre vous demandez ça, etc. Ben, j'ai dit, écoutez, je suis le seul à m'intéresser à ça sur Paris, sur bord des SDN, je m'appelle Desrolles, j'ai ma carte, tout ça, je l'enfile. J'ai dit, j'aimerais bien savoir, parce que moi j'ai des interviews de le fossoyeur qui, quand ils ouvrent les cercueils, les caveaux 5 ans après, trouvent que c'est pas franchement décomposé. Ah bon? Ben, j'ai dit, attendez, c'est les visions Parc et Jardin Cimetière de Paris, là. Vous vous occupez quand même de ce qui se passe dans vos affaires. Mais attends, les gens les découvrent. Non, mais attends, ça circule pas l'info. Alors j'ai dit, moi ça m'intéresserait parce que j'ai des hypothèses de travail là-dessus. Et en effet, l'enquête de terrain, au petit bar, à la sortie, il y a toujours les petits bars cimetière, à la sortie des cimetières, avec des noms pas possibles. On est mieux ici qu'en face, des trucs comme ça, oui. Ouais. Bon, bref. Les gars, ils vont boire le petit blanc, alors je m'y mets au comptoir, et puis bon, il y a une équipe de fossoyeurs qui arrive, on se met à papoter, je paye ma tournée, ils payent la leur, je paye ma tournée, je suis parti dans un état. Et j'apprends des trucs. Parce que les gars, eux, ils manipulent le hein. Donc ils me disent d'abord, on est très content des caveaux des compositions individuelles, à des compositions rapides, d'abord parce qu'ils sont individuels. En plus que ça nous facilite la tâche, parce qu'il me dit, les gens ne se rendent pas compte, mais dans une division où vous avez les tombes ou les fosses communes, comment ça se passe? Ben, c'est un gâteau à étages, hein, fosses communes. On creuse, une pelle mécanique creuse un emplacement de 2 mètres sur, mettons, 40 mètres. On met au fond des cercueils tous les mètres, hein, une couche de terre, des cercueils tous les mètres, une couche de terre, un cercueil tous les mètres, c'est un millefeuille, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les cercueils se désagrègent. En plus, comme c'est des plus démunis, je savais dans mon enquête que les cercueils, c'est des entrées de gamme, hein, c'est des trucs en volige, bon, qui pourrissent très vite, hein, c'est pas du chêne au futé ou de la cajou et tout ça, hein. Pour les SDF, bon, c'est le minimum, quoi. Et donc, comme les cercueils pourrissent, ça fait des micro-mouvements tectoniques et les corps glissent les uns par rapport aux autres. Quand ils ont une exhumation à faire, 3 ou 4 ans après, vous imaginez le boulot? Alors le mec, il se met en bord de la tranchée à un mètre, et oui, il creuse, et il tombe sur quel cadavre? Il y en a 2 épaisseurs au-dessus, ça a glissé un peu de tous les côtés, et dans quel état? J'insiste pas. Donc, je veux dire, c'est un boulot épouvantable pour ces mecs. En plus, ils sont pas sûrs complètement du cadavre qu'ils récupèrent. Donc là, des caveaux individuels, jusqu'à ce qu'il soit incinéré, bien sûr, au moins pendant 5 ans, c'est net, c'est propre, bon, ils travaillent dans de meilleures conditions. Bon, je dis, ben alors vous travaillez avec l'institut médico-légal, ouais, ils viennent, ils livrent, oui, mais oh, ben oui, et puis bon, comme il n'y a pas de. À ce moment-là, bon, les morts de la rue n'œuvraient pas, oh, c'est vite fait avec eux. Mais on a des soucis quand même. À l'institut médico-légal, me dit le gars, il blinde un peu les cercueils. Je dis, ah, mais tiens, tournez. Il blinde un peu les cercueils. Ça veut dire quoi, ça? Il blinde. Un corps, c'est un corps. Un cercueil, il n'y a pas à blinder ou quoi que ce soit. Eh ben, il n'y a pas longtemps, là, on en a sorti, et puis le foie a cédé. Et en fait, il y avait des déchets anatomiques avec. C'est-à-dire, le mort avait 2 têtes ou 3 bras. Ouais. Ils avaient blindé avec des restes humains, hein, qui n'étaient pas ceux du corps. Il y avait le corps du mort, plus des restes de des restes anatomiques, on va dire. Il dit, je prends note. Quand je vais la voir la prochaine fois, il dit, arrêtez de blinder les cercueils, là. Hein. Bon, vous rentabilisez le coup, on sait, hein, mais... Bien, donc mon sujet vient plus délicat. Je le continue, parce que je voulais voir aussi les SDF qui mouraient au Chapsa à Nanterre, à l'hôpital de Nanterre. Donc je fais une enquête là aussi. Je me fais manipuler complètement par un médecin vachement sympathique, qui a fait une thèse d'éthique médicale en plus. Ah, les gens qui font de l'éthique, moi je m'en méfie, je trouve que c'est les plus salauds qui soient. Mais bon, ils ont leur brevet de truanderie avec leur thèse d'éthique. Et bah oui, parce que l'éthique, bon, je veux dire, l'éthique, on le sait en anthropologie, l'éthique ça se pratique. Hein? Et à partir du moment où on parle de quelque chose, c'est qu'il n'y a plus de pratique. Hein? Le langage vient combler le vide, l'absence des pratiques. Voilà, vous avez compris. Donc l'éthique, il n'y a pas de grand discours à faire dessus, ça se pratique, on en a ou on n'en a pas. Comme en France, comme dans les autres pays européens, il y a une grande vague d'éthique là, qui a inondé depuis les hautes sphères jusqu'au bas l'éthique, eh ben, c'est pas un mouvement inverse. En bas, il y a de l'éthique. En haut, il n'y en avait pas. C'est pour ça qu'ils sont drapés dans des discours sur l'éthique qu'ils n'avaient pas. me reçoit, je lui présente, ah oui, Daniel, il faut qu'on travaille ensemble, et donc je passe 2 ans, bon, il fait 2 accidents cardiovasculaires qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui retardent l'enquête, on dépouille ensemble, je ne peux pas dépouiller seul, il y a un problème d'éthique, là aussi, médical, hein, on ne peut pas dépouiller, si on n'est pas médecin, des dossiers médicaux. Il fait venir tous les dossiers médicaux, j'apprends par là, par exemple, même si c'est le cas, si on meurt en réanimation, on n'est jamais déclaré mort en réanimation. Vous êtes déclaré mort dans un service à côté.
Oui, mais ce n'est pas justement pour optimiser les chiffres de réussite du service de réanimation.
Écoutez, je ne sais pas si c'est symbolique ou quoi. On ne meurt pas en réanimation. Voilà, c'est tout. C'est très clair. C'est comme dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Bon, voilà, c'est tout. Vous pouvez expliquer, tenter d'expliquer comme vous voulez, mais bon. Voilà, donc Jacques me dit, on ne meurt pas en réanimation. Ah, je dis, ah bon, vous n'avez jamais d'accident grave ici, monsieur, ici, bien sûr, mais c'est jamais déclaré. Bon, voilà, on meurt après en soins de suite ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, mais bon, voilà. Bon, bref. On fait tout ce boulot, on commence à dépouiller ces dossiers. Bon, il n'y a pas beaucoup de données sociologiques, hein, puisque il y a surtout des données médicales, mais elles sont intéressantes, parce que ça nous permet quand même de savoir de quoi meurent les SDF. Quelques données sociales. Je travaille avec lui pendant des semaines. Là-dessus, il était à la direction du SAMU social de Paris et nommé secrétaire d'État à la lutte contre l'exclusion. Il m'envoie un mail en disant « Daniel, presque du coup, tu sais, je fais don de ma personne à la France, Jean Pétain, ou Pompidou, disant « si la France veut de mon destin, je suis prêt à faire don de ma personne. » Moi, je me méfie de ces gens-là, bien sûr. Hein. Bon, mais c'est tellement désintéressé dans la formulation que hein, c'en est suspect. Daniel, tu comprends, j'ai l'habitude de travailler au SAMU social. Si je peux être utile au SDF. Enfin, j'ai accepté, je suis conseiller technique de au secrétariat d'État. J'ai dit bravo, alors moi, tu vas pouvoir donner toute ta mesure. Je ne sais pas s'il a saisi le cynisme et l'ironie de mon propos. « Ah non, je te remercie, Daniel, c'est vrai, là, oui, moi, j'ai dit non. » Bien, donc je demande un rendez-vous avec lui dès qu'il est dans les meubles. Alors, ça vaut son pesant de cacahuètes, ça. J'avais été contacté par C'est dans l'air avant, comme je vous ai dit, et puis il avait arrêté, puisque j'allais demander, et j'avais dit que je demandais son rémunération. Bon, très bien. Bref, alors je monte au secrétariat d'État, la structure, c'est très simple. Au 5e étage, en dessous les conseillers techniques, machin et truc, en dessous, et puis on descend, on a le pouvoir, quoi, bon, c'est clair. Et sa directrice de cabinet. 9h du matin, j'arrive, j'attends, je vois qu'arriver dans une CX bleu nuit avec chauffeur, descendre habillé costard 3 pièces, cravate, machin, alors que j'ai toujours connu en col roulé, blouson de cuir et moto, parce qu'il circulait comme ça pour aller au Chapsa depuis des années. Bah, j'ai dit, dis donc, l'ami fait pas le moine, mais ça améliore quand même. Ah non, mais Daniel, tu comprends, je suis obligé, là, je peux pas quand même arriver en blouson de cuir. C'est le début du reniement. Non, mais là, bon, quand même, je comprends. On s'installe. Tous ces gens-là sont servis par des jeunes de 30-35 ans qui sont des anarques, des jeunes anarques. Vous allez voir la suite. On a à peine commencé à parler, il est interrompu par un coup de fil. Qu'il évacue mollement, je trouve. Non, je suis en rendez-vous. Ben non, plus tard, passe plus tard. Ben non, je suis en rendez-vous, je te dis, non. Bon, ben alors, si tu veux, tu viens. Voilà, bon. Alors, moi, je dis rien, mais j'en pense pas moi. J'ai dit, bon Dieu, j'ai rendez-vous avec lui. Moi, j'avais pris rendez-vous, hein, 9h, 10h, bon, peu importe. Et il dit, qu'est-ce qu'il vient nous faire chier, là, alors qu'on est tranquille, bon, c'est pas possible. Débarque une furie, qui est la directrice, enfin, la directrice de cabinet, la directrice de cabinet de. Une espèce de grande conne, et j'ai pas d'autre mot, qui ne me salue même pas courtoise, qui me fonce sur le col. Écoute, hier j'ai pris une biture à l'Élysée Montmartre, hein, je dis, ça va pas du tout, là il faut aller boire un café, parce que sinon voilà, je peux rien faire ce matin. Hein, faire... Alors, je te présente Daniel Terrol, vous êtes pays. Alors, on dit pays quoi, elle est Clermont-Ferrand, elle aussi. Elle me pète mon entretien complètement, il fallait voir. Elle pousse les. Allez, on va prendre un café, mais c'est pas possible. Je suis tombé, c'est quoi cette conne là, bouffer du foin là, il sait même pas se tenir, même pas élever, c'est quoi ça? Moi, je serai dans ma chienne. Allons boire un café. Je dis, je sens que ça devient, sinon votre rendement va baisser considérablement, si tant est que vous en ayez un, merveilleux. On se retrouve sur la Moleskine du bistrot derrière. Alors quand ils sont assis tous les deux sur la Moleskine, moi je suis sur, il y a la table, et puis moi je suis de l'autre côté sur une chaise. Elle boit son jus. Elle se calme un peu, et j'ai dit, alors votre parcours c'est quoi? On a fait aux études où à Clermont, Sainte-Thèque, ah, organisme religieux, école religieuse, déjà, bon, très bien, pourquoi pas. Et j'ai dit après ça, j'ai fait des études d'économie aux études de commerce ou d'économie, je ne sais plus, à Saint-Étienne. Alors, quand on vous dit ça, c'est qu'on n'a pas obtenu le diplôme. Hein. C'est-à-dire qu'on a traîné un an ou deux en première année, qu'on a redoublé, on n'a pas obtenu le diplôme. Bref, on a... Bah, attendez, un universitaire, comment on le fait pas hein, soit vous avez un diplôme et vous le dites, soit vous ne l'avez pas et vous... Ouais, ces anciens élèves de l'école, machin, qui n'ont jamais eu le diplôme d'ingénieur final, on connaît. Bien. Et puis j'ai rencontré... Je suis rentré en politique, comme en religion, quasiment. C'est une femme formidable. Alors là, elle m'a mis trois couches. Extraordinaire, capacité de travail, de compréhension, d'empathie, de tout ce que vous voulez. Le Christ, quoi, fait femme, quoi. C'est pas possible, entendre. J'ai dit, vous la connaissez bien? Ben oui, parce que je l'ai suivie, ça fait 15 ans que je la suis, etc. Ben c'est parfait. Ben j'ai dit, si vous la connaissez bien, vous étiez au SAMU social, ben oui, justement, je l'ai suivie ici, si, très bien. Alors vous pouvez peut-être me confirmer que quand elle était au SAMU social, il y a 6 mois, là, comme directrice du SAMU social, elle touchait 45 000 francs par mois parce qu'on m'a donné l'information, quelqu'un qui me l'a donné de manière assez sûre. Vous pouvez confirmer. Et là, elle a failli s'étrangler, elle se reprend, elle me dit, vous n'y pensez pas. 25 000. Ben, je dis 25 000 plus 20 000 de primes. Et là, elle a eu le temps de se reprendre et elle me dit, écoutez bien, si on veut des gens compétents, il faut pouvoir les payer. Vous confirmez donc. J'ai dit, c'est très bien. Côté. Ah, il est gauchiste, un crabe dans la culotte, il se tenait plus dans sa moleskine. J'ai dit, écoute, arrête tes conneries. Je cherche la vérité. Si la vérité est gauchiste, j'y peux rien. Bon. Si elle était payée 45 000 francs pour aller chialoter devant les télés l'hiver, quand le thermomètre faisait moins 40, en disant, on va ouvrir une station de métro parce que les pauvres, ils ont froid, sans problème, c'est pas le mien. Hein. Donc vous avez parlé de compétences, j'ai dit à la fille qui était de plus en plus mal en face de moi. Vous avez parlé de on va parler des compétences de. Hein, il y a son CV sur Internet, hein. C'est une commerciale qui travaille pour des labos pharmaceutiques. Vous trouvez que c'est adapté à la gestion des SDF, à moins que vous ayez des applications de faire passer, comme c'est une expérimentation, des vaccins qui ne sont pas encore sur le marché, sur les SDF. Oh, il est gauchiste. Non, je dis, je plaisante. Bon, oui, ça va. Pas fait une copine. Bon, je m'en fous. Faire des copines, ça, ouais, je suis encore avec vous, on s'en dispense. Bien, donc j'ai travaillé avec Jacques, qui arrive donc au secrétariat d'État, et là je lui pose la question avant que la grande conne vienne nous emmerder là, avec son café, parce qu'elle s'est brouillée la gueule la veille. J'ai dit que notre travail là, alors il faudrait qu'on conclue, là, qu'on fasse la synthèse de ces dépouillements. Alors embêté, hein, Daniel, je suis embêté, je t'ai pas dit. Mais il y avait une étudiante en médecine qui avait besoin de passer sa thèse rapidement pour avoir un poste au Vietnam et je lui ai donné nos données. Mais j'ai dit, tu m'en parles même pas? Attends, on est où là? T'as passé une éthique en médecine? T'as passé une thèse d'éthique en médecine et tu fourgues les données à une étudiante, je ne sais pas pour quelle raison, celle-là. J'ai sous-entendu, tu la sautes peut-être, mais bon, c'est pour moi, ce n'est pas une raison objective. Et tout ce qu'on a fait ensemble, tu me tiens même pas au courant, mais non, mais tu comprends, j'étais très pris, ceci, c'est pas... J'ai dit, écoute, tu m'inviteras à la thèse quand même, quand elle te soutiendra. Même si c'est une thèse de médecine, pas une thèse de science, 80 pages de merdique en 20 minutes devant un jury pipeau, on connaît en médecine. Bon, la thèse n'a aucune valeur, bon, de toute façon. Oui, Daniel, je te le dirai. Je le retrouve 3-4 mois après, et là, comme par hasard, il a oublié de me faire dire pour la thèse.
Oh.
Il a fait soutenir la thèse avec un spécialiste de l'éthique médicale. Alors, je dis, vous avez bien raison de mettre l'éthique devant, hein, parce que vous avez besoin, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éthique dans vos pratiques, apparemment. Donc, moi, j'envoie un mail à la fille. J'avais envoyé un mail à la fille, je me demandais qui c'était, en lui disant, c'est un sujet vachement sensible, dépouillez bien ces chiffres, faites valoir ceci, ce... Elle ne m'a jamais répondu. C'était clair que, bon, elle ne voulait pas passer sa thèse par avoir son poste, etc. Je demande à tu peux m'envoyer la thèse? Alors, j'ai le gros cul de son ordinateur, là, c'est des anciens ordinateurs. Je suis là, de ce côté, je vois pas l'écran. Et oui, alors il tripote, ton mail, c'est ça? Oui, ah, c'est parti, Daniel. Bon, très bien. Je rentre chez moi le soir à Clermont-Ferrand, j'ouvre mon truc.
Rien.
Le résumé de thèse, 3 pages. J'ai dit, vraiment, il se fout de ma gueule complet. Il me nique sur la transmission des matériaux, délibérément, il ne m'invite pas à la soutenance, et il m'envoie un résumé de thèse. Non, mais on va où, là? Là, ça commençait à me chauffer sérieux. Qu'est-ce que vous en auriez à penser, vous?
Ça m'aurait
joué un frangeux, ce mec. Donc je lui téléphone le lendemain, je dis « Jacques, t'as dû te tromper ». Tu m'as envoyé le résumé. « Oh mince, excuse-moi Daniel, je t'envoie la thèse, etc. » Je dis « Enfin, bon, je l'ai eu, il n'y a rien. » Rien. Il y avait des tableaux statistiques, merdiques, elle n'en tire rien, comme c'était prévu. Voilà. Voilà le type de collaboration.